allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas.
On ne parle pas, la bouche pleine.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Krugère.
Sortez.
Bonjour.
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 Nous sommes à Pont-de-Montvert, au Festival de l'Abeille Noire. Et nous sommes avec Léonore et Charles. Alors, j'aimerais pas écorcher votre nom. Comment se prononce votre nom?
En bon néerlandais, c'est Veenstra. En français, c'est Veenstra.
Charles, vous étiez journaliste, journaliste dans la presse agricole. Léonore, vous aviez fait les Beaux-Arts.
Oui.
Vous avez décidé un jour de changer totalement de vie.
Oui.
Comment quitte-t-on la Hollande pour devenir producteur, entre autres, de champignons japonais dans les Cévennes?
Mais c'est toute une histoire. Il y a 12 ans, on avait le projet de partir de la ville où on habitait. On était en Rotterdam, en plein cœur de Rotterdam. Et le choix, c'était de partir à la campagne hollandaise avec un projet agricole ou partir ailleurs. Léonore est née en Afrique, donc on pensait partir là-bas. Finalement, on est descendu vers le sud pour trouver un endroit pour commencer une exploitation agricole. En Hollande, c'était très compliqué et ça ne nous a pas trop plu. Donc on a commencé à chercher un endroit. On l'a trouvé et ça fait 15 ans qu'on travaille et on habite là.
Alors vous habitez à quel endroit et quel est ce travail? Comment devient-on agriculteur? Parce que ni l'un ni l'autre ne l'était.
On a trouvé l'endroit. C'est juste en face ici, à l'autre bout de montagne, un endroit qui s'appelle Masla de Vez. Et à l'époque, c'était un tas de pierres. C'était pas cher. Et il y avait des terres autour. Donc on a décidé de commencer là-bas. Du coup, on a passé 10 ans à remonter le Mas. Et le problème sur place, c'est que c'est très vallonné. Il n'y a pas un endroit plat. Donc, à part l'élevage ou les châtaignes ou le miel, il n'y avait pas d'autres productions qui étaient envisageables. Donc, du coup, on a cherché une autre production. Et à l'époque, j'étais journaliste en Hollande. J'ai fait un reportage sur un gars qui faisait des champignons sur rondins.
Des champignons qui étaient élevés sur des troncs, enfin sur des...
Ouais. La semence se fait dans le rondin, et après, il y a une production de champignons sur les rondins.
C'est du chêne blanc?
C'est du chêne blanc, et c'est une champignon qui est très connue. C'est la deuxième champignon produit en Europe, après le champignon de Paris. Malheureusement, c'était pas un champignon qui était très connu dans le Midi. Donc ça posait un problème. Mais bon, quand j'ai vu cette production-là en Hollande, je me suis dit ça c'est peut-être un moyen d'avoir une production à l'endroit où on était, parce que bon, comme je disais, c'était très vallonné et les champignons nous permettaient de faire une production sur une toute petite surface, quoi. Donc on s'est lancé dedans. On a fait ça pendant 10 ans. Entre-temps, on a remonté le Mas, donc on était un peu dispersé entre la rénovation du Mas et la production agricole, élever une famille, bref, on était bien occupés. Au bout de 10 ans, j'ai 52 ans, là, je me suis dit, je ne pouvais plus porter les rondins parce qu'il y avait 10 000 rondins en production, et chaque jour, je prenais avec le tracteur une centaine de rondins vers la salle de culture. Mais c'était un boulot énorme et physiquement je pouvais plus le faire.
Donc j'ai honneur, vous portiez les rondins aussi?
Non. Le moral, c'est mieux peut-être.
Vous supportez le moral.
Voilà.
Donc du coup, j'ai failli m'arrêter parce que je pouvais plus les porter. Et je me suis dit, mais c'est un peu con, t'as fait ça pendant 10 ans et là tu arrêtes tout. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc je me suis dit, soit je trouve un support plus léger et plus rentable, soit je m'arrête. Donc je me suis lancé dans des études de mycologie pas possible. J'ai bouquiné pendant un an, j'étais insupportable à la maison.
C'est vrai.
Au bout d'un an, il y avait un bloc avec des champignons. Donc finalement, j'ai réussi à reproduire le champignon sur un substrat de sciure. Et il y a une scierie juste à côté, donc j'ai récupéré toute la sciure à la scierie, de la sciure de châtaignier.
D'essai, hein.
Donc, je produis les mycéliums sur place. Je fais la semence sur place, on fait la culture sur place. Donc du coup, on maîtrise maintenant toute la chaîne de production, et voilà.
Alors, comment se passe la journée d'un producteur de champignons ?
Ben, oui, c'est à toi de raconter, parce que c'est surtout toi qui le fais.
On commence à soigner les bêtes, parce qu'on a des bêtes.
Oui,
aussi.
Oui. On commence avec des enfants.
Ouais. C'est une journée très chargée. Pour avoir une production continue, il faut ensemencer, pasteuriser, produire à peu près 150 kg de substrat par semaine. C'est-à-dire introduire le blanc dans le seigle. Le seigle, j'utilise pour ensemencer le substrat. Donc il faut avoir un stock de seigle ensemencé avec le blanc tout le temps, c'est-à-dire 3 heures de labo par semaine. Il faut stériliser 150 kg de substrat à la vapeur, au feu de bois. C'est très artisanal tout ça, parce que la plupart des producteurs le font avec un autoclave énorme de 20 000 euros. Nous, on a bricolé, c'est le système D7OL, on a bricolé une espèce de machine à vapeur au feu de bois qui stérilise les substrats. Et du coup, ça ne nous coûte rien parce qu'on a à peu près 40 hectares de bois et on fait la pasteurisation et les stérilisations avec ça. Mais c'est avec de la vapeur, c'est quand même assez dangereux. Si tu ne le surveilles pas, ça explose. Tous les gens du coin, ils m'ont dit, mais s'il y a un grand boom, c'est le Hollandais qui s'est fait exploser, quoi.
Et le Hollandais, c'est vous?
Comment ?
C'est le Hollandais.
L'Hollandais, c'est nous. Oui. Oui, oui,
il n'y en a pas d'autres dans le
coin. Non, il n'y en a pas, il y en a pas 10 000. C'est dans l'Ardèche où il y en a beaucoup, mais ici, il y en a très peu. Et du coup, bon, ça prend beaucoup de temps. Après la cueillette des champignons, le travail en labo, c'est très intensif parce que c'est très méticuleux. Hein. Du moment que on fait une semence en labo, il faut se respecter une technique stérile. Si je fais des conneries dans le labo, j'ai une bactérie ou un autre champignon dans mon mycélium, et après ça se multiplie. Et au bout de 3 mois, j'ai plus de production. Donc il faut surveiller tout le temps que je travaille dans des conditions 100% stériles. Et ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui se lancent dedans, parce que les risques sont énormes. Si tu fais un faux mouvement avec une main, quand tu fais une semence dans un pétri, tu chopes une bactérie dedans et après, tu n'as plus rien. Le problème, c'est qu'il y a une incubation de 3 mois, donc tu t'aperçois que tu as fait une connerie après 3 mois.
Et après 3 mois... Et c'est trop tard.
Et c'est trop tard. Après, tu as un trou dans ta production, ce qui m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu beaucoup, beaucoup de problèmes techniques. Et après, il y a toute une histoire, parce que les biocopes, ils veulent tant de kilos par semaine. Tu ne peux pas livrer. Ils vont se tourner vers un autre. Bon, bref, c'est... C'est compliqué, quoi. Pour expliquer bien comment ça fonctionne, si je sors un bloc du sac, ça prend une semaine avant de devenir un champignon. Voilà. On sort à peu près 40 blocs par semaine. Voilà. Et ça fait, à ce moment, 30 kilos de champignons par semaine. Ce qui est très peu pour une production une production de champignons, c'est très peu. Parce que la plupart des productions, des producteurs sortent des tonnes de champignons. On a fait le choix de le faire en petite échelle et sur une exploitation familiale. Donc du coup, il n'y a rien automatisé, tout est fait à la main, la cueillette, la préparation de substrat, la pasteurisation, la stérilisation. Voilà. Bon, et je récupère la sciure à la scierie qui est à côté. Donc je descends avec un camion, je cherche la sciure. Et après, il faut ramasser tous les jours des champignons dans la salle de culture.
Et c'est tous les jours, toute l'année ?
On a à peu près 3 jours de cueillette par semaine, à peu près.
Et la cueillette se fait à une heure particulière ?
Non, ça dépend le stade des champignons. Il faut ramasser les champignons au bon moment, avant les spores tombent. Comme ça, on peut les conserver plus longtemps.
Et comment vous identifiez le bon moment ? C'est l'expérience ?
C'est le chapeau qui se déroule. Et à un certain moment, le chapeau, juste avant, ça se déroule entièrement, il faut les ramasser. Parce que si le chapeau se déroule complètement, les spores tombent. Et après, ça périsse très vite. Parce que bon, le champignon considère qu'il s'est reproduit. Et du coup, le fruit meurt, quoi.
Et qui fait la cueillette ?
Tous les deux.
Mais oui, on le fait tous les deux, heureusement, parce que tout seul, moi je stérilise, Léonore ramasse
beaucoup. En fait, c'est beaucoup de travail.
Ce matin, elle a fait la cueillette, parce que moi j'ai fait le marché ici.
Voilà.
C'est une exploitation qui n'est pas gérable tout seul, je crois.
Non.
Vous êtes tous les deux ou vous êtes aidés par d'autres gens ?
Ben, en été, on fait le woofing. Vous connaissez ça ? Oui. Donc il y a des jeunes qui viennent de partout, parce qu'on parle 4 langues, donc c'est super sympa. Et on fait aussi le woofing pour les garçons. On a 2 garçons, de 14 et 17 ans maintenant. Et on a fait ça depuis 6 ans, 7 ans. C'est pour expérience, pour changer l'expérience, pour apprendre aux jeunes qui sont intéressés. Et aussi pour nos fils, parce qu'on habite très très loin et très isolés. De les montrer que
le monde est plus grand que...
Voilà. Et donc là, on a beaucoup d'aide en été, parce qu'à part de champignons, on a le petit fruit, pas mal.
Quel petit fruit ?
Tout.
Fruits rouges ?
Surtout framboises, mais cassis, groseilles, comme tout le monde un peu. Mais beaucoup, en fait, beaucoup de framboises. Et donc, ça prend aussi beaucoup de temps.
Et mais les enfants, comment ils vivent dans cette...
Maintenant, ils sont des ados, donc maintenant, tout est nul. Hein. Ouais. La campagne, maintenant, ils veulent... Pourquoi vous êtes parti ? Vous êtes parti de Rotterdam, c'est chouette, les grandes villes. Mais voilà, c'est l'âge. Mais moi, je pense que c'est un bon start pour la vie, à la campagne. Moi, j'ai eu une start comme ça aussi, un début. Et je crois que c'est bien. Sur France Culture, on parle pas.
La bouche pleine avec Alain Kruger.
Kruger.
J'aimerais que vous nous disiez, pour vous, le shiitake, quel goût ça a, à quoi ça ressemble.
Oui. C'est une champignon qui est malheureusement pas très connue dans le Midi, parce qu'en France, en général, il y a une culture de champignons sauvages. Nous, on vient du Nord, nous, on est plus dans une culture de culture de champignons, quoi.
C'est très connu, oui.
Donc si nous, on mange des champignons, c'est souvent des champignons de culture. Quand on est arrivé ici, et quand on a essayé de vendre des champignons, l'antenne de chaîne shiitake, tout le monde nous regardait.
C'est très difficile.
C'est quoi, ouais. Ça
ouais.
Alors c'est quoi, ça?
C'est quoi? C'est une champignon qui a des vertus médicinaux, beaucoup même. Ça fait baisser le taux de cholestérol, ça renforce le système immunitaire. C'est un champignon qui est très bon à manger, c'est gustatif. C'est
très parfumé.
C'est très parfumé.
Ouais.
Si vous voulez, c'est le petit cousin du cèpe. Il ne faut pas le dire trop en Cévennes parce que ça les gonfle, mais c'est vrai, c'est très parfumé. Il y a même des Cévennois de souche que j'ai réussi à convertir au shiitake. Parce que c'est effectivement, ça ressemble un peu au cèpe, quoi. C'est très, très parfumé.
Je trouve que c'est mieux.
Après, y a la cuisson est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans.
Oui.
Donc, il faut les cuisiner comme il faut. Sinon, ça devient très vite caoutchouc. C'est français, ça ?
Oui, très bien.
D'accord. Donc, il faut vraiment les cuisiner comme il faut. C'est-à-dire au feu doux pendant 20 minutes pour que ça rende l'eau. Et après, on peut les cuisiner, on peut les mettre dans les plats, dans des risottos, dans des sauces de pâtes. C'est très bon.
Qui les cuisine, ces champignons ?
Beaucoup de chefs. Il y a tous les biocopes qui sont intéressés de les prendre parce que la plupart des shiitakes, ça vient de Bretagne ou de la Loire. Je suis un des seuls producteurs en bio dans le Midi, donc il y a un marché énorme. Mais bon, je reste un petit bricoleur et je veux bien rester.
Et vous les cuisinez chez vous, ces champignons ?
Oui, moi j'aime bien. Charles, non plus hein, maintenant, un petit peu moins.
Les shiitakes, ça se consomme généralement dans des soupes au Japon. Vous les préparez
En fait, on peut le faire comme des cèpes. Oui. Avec un oignon, un peu persil, l'ail, quart d'heure, 20 minutes. Et c'est bon, c'est une préparation pour tout, pour une sauce ou pour une soupe. Mais à la base, enfin, c'est moi qui fais comme ça, à la base, c'est comme ça. Une préparation à la poêle. Et qu'est-ce qu'on fait plus? Un ragoût, une sorte de ragoût, tu aimes bien.
Et vous les faites sécher aussi, les champignons?
Beaucoup, beaucoup. Mmh. Au soleil, si c'est possible.
Et quels autres champignons produisez-vous ici?
Mais on fait des pleurotes aussi depuis pas longtemps, parce que le fait qu'on a construit un laboratoire sur place, ça nous permet de faire n'importe quel champignon, en fait. Donc maintenant, j'ai une librairie de champignons, c'est-à-dire un petit frigo avec une vingtaine de souches de champignons. Et je peux produire ce qu'on veut, quoi. Vu que le marché est plutôt shiitake et pleurote, on fait ça principalement, mais techniquement, on peut faire n'importe quel champignon, parce que on maîtrise toute la production, le processus de champignons. Ça me passionne, c'est très intéressant.
Vous étiez préparé pour des modes de vie très différents, pour une culture différente, vous faisiez un métier qui n'avait rien à voir. Cette reconversion et ce déménagement, vous avez l'impression que ça a modifié quoi dans votre vie?
Pour moi, c'est un peu spécial parce que mon père était agriculteur en Afrique, donc il était... agriculteur tropical, donc c'est complètement différent. Mais je suis grandie sur des fermes, dans différents pays. Donc j'ai déjà vu un mode de vie un peu isolé, loin et travaillé. Et donc pour moi, c'était presque un vœu de partir et de faire ça.
Un retour aux sources.
Oui, voilà, vraiment, vraiment, oui.
Vous avez l'impression que vous avez appris des choses particulières sur... sur vous, sur cette relation à cette terre qui est pas seulement une terre de résistance, mais qui est une terre résistante aussi aux gens qui la travaillent. La terre des Cévennes, c'est pas une terre facile.
Non, c'est vrai.
Il n'y a rien facile ici, non. Ça c'est sûr. On a découvert ça.
Ouais.
Ça te forge. Je suis beaucoup plus fort et résistant qu'avant, quoi.
Ouais.
Physiquement, psychologiquement,
c'est
je
vrai.
Crois.
Oui, c'est vrai. C'est dur, mais aussi magique. C'est un peu, c'est pas romantique, parce que c'est pas du tout romantique. Mais la terre en Cévennes, on a deux gîtes, donc j'ai raconté aux gens ce matin, pour moi, parce que vous voulez faire une promenade dans les Bougès, ça c'est la montagne ici, entre
Pont-de-Montvert. Bougès et Goual, oui.
Voilà. Et donc, ils voulaient aller aux Trois Faillards, et c'est un endroit de Camisard.
Les Trois Faillards, c'est le hêtre cévenol, le faillard.
Voilà. Ouais. Voilà. Et donc. Comme j'ai dit aux gens aussi, c'est si on fait une promenade, pour moi c'est comme ça, on sent que c'est mystique, il y a quelque chose, et on sent la résistance, mais on sent la résistance aussi par le travail, c'est vrai. Mais ça forme, c'est bien, parce que c'est bien d'avoir des périodes dures aussi, c'est bien.
Et vous avez été accueillis comment en Cévennes, tous les deux, venant de Rotterdam?
En fait, très bien.
Ouais.
Hein? Très bien.
Au début, c'était difficile parce qu'ils ont quand même regardé qu'est-ce qu'ils vont faire là.
Parce que c'était une ruine. Il n'y avait rien.
Ils pensaient que c'était un secte religieux qu'on voulait fonder là. Parce que tout le monde me disait, mais Hollandais, qu'est-ce que tu vas faire là? Il y a 50 générations Cévenol qui ont galéré là. Qu'est-ce que tu...
Ouais.
Ils étaient un peu fâchés.
Ouais. Ouais, ils ont raison. Hein.
Et on a fait une année, on a fait deux années. La voisine a commencé à dire, ça fait la troisième hiver que vous êtes là. Hein. Parce qu'ici, c'est les hivers qui comptent. Après quatrième hiver, ils ont vu que on avait une affaire qui tournait et qu'on bossait tous les jours. C'est très important en Cévennes.
Oui, ouais. C'est un pays de travailleurs.
C'est un moral calviniste, protestant. Il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas...
Pourquoi pas ? C'est bon.
Mais c'est mal marré, quoi. Ouais.
Et dans l'Égypte, vous faites la cuisine ?
Non, on ne fait rien. Non, il ne faut pas faire la cuisine pour les Français. Hein. Comme les Hollandais. Mais non, ça ne marche pas.
Pourquoi ?
Ah, mais ils ont raison. Hein. Moi, j'aime bien la cuisine française, mais pas la cuisine hollandaise. Excusez-moi.
Non, vous pouvez faire la cuisine française en étant hollandaise.
Non, mais je ne fais pas. C'est vraiment indépendant. Et en plus, on est très, très chargé, donc on ne fait pas. Mais de temps en temps, il y a des gens sympas et on fait quand même.
Ouais. Mais il y a quand même des bons échanges avec, pour rebondir un peu vers les voisins. Là, la vieille dame qui habite juste à côté de nous s'appelle Laurence. Elle est adorable.
Ouais.
Elle nous a toujours bien accueillis.
Elle est d'ici.
Elle est vraiment d'ici.
Ouais.
C'est un très bon exemple d'intégration parce qu'elle est passionnée de champignons. S'il y a des cèpes, elle sort avec son petit panier. On la retrouve partout dans la forêt. Elle dit « Charles, il y a des shiitakes sur tes rondins ?» Je dis « Oui, Laurence, il y en a. »« Ah, ben ça veut dire qu'il y a les cèpes qui sortent aussi. Hein. » Et ça, c'est magique. Elle sait maintenant que du moment que j'ai des champignons sur les rondins dehors, sait que le cep va suivre.
Ouais.
Donc c'est pas quand même rigolo, c'est quand même une bonne histoire.
Ouais.
Qu'il y a un champignon japonais qui annonce la sortie des cèpes en Cévennes.
Est-ce que vous continuez à dessiner ?
De temps en temps, oui. Mais c'est un peu frustrant parce que j'aime bien et j'ai pas beaucoup de temps. Donc on est en temps de retraite.
Et vous, Charles, vous continuez à écrire ?
Non, pas du tout.
Des beaux lettres à ton frère ou ta mère.
De temps en temps.
Et vous n'avez pas envie d'écrire cette passion pour les champignons,
cette passion, je le vis tous les jours. J'ai pas envie de.
Mais dans la transmission.
On a eu un stagiaire belge qui voulait se lancer dans les champignons aussi.
Et
c'est une transmission qui est pour moi très utile parce que c'est un jeune qui veut se lancer dans le métier.
Voilà.
Et il est intéressé. C'est quelqu'un qui est motivé.
Vraiment intéressé.
Et t'as vraiment l'idée que tu peux transmettre.
Et alors, si on est un jeune étudiant en agronomie, ou si on est passionné de psychologie, on peut vous écrire, on peut venir faire un stage chez vous. Comment ça se passe ? Comment vous les accueillez, les stagiaires ou les...
On prend très peu de stagiaires parce que je suis dans un stade où je maîtrise la production à peine. C'est vrai, on s'en sort, mais c'est pas... j'ai fait des conneries encore en labo, mais si les gens insistent vraiment, parce que pour reprendre l'exemple du Belge, il m'a téléphoné 50 fois.
Oui,
et j'ai dit, non, on ne prend pas de stagiaire. Après 51 fois, j'ai dit, écoutez, lui, il est motivé.
Oui,
donc il est venu, il a passé 2 mois à la ferme, et c'était super. Mm. C'était un échange intéressant. Et c'est quelqu'un qui se lance là-bas, qui nous tient au courant, ce qu'il fait. Ça m'a vraiment motivé.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, Charles, comment vous avez eu le choc du champignon ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ?
Ce qui m'intéresse aux champignons, c'est que c'est une nourriture très saine qui se fait sur un déchet agricole, sur une surface très petite, avec un empreint écologique zéro presque. C'est ça qui m'a toujours fasciné.
Étiez un militant écologiste ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je le suis devenu ici, comme beaucoup de Cévenols, je crois.
Pas militant, mais...
Mais je ne suis pas militant, mais je me suis aperçu que la planète est très fragile. Et je me suis aperçu encore plus fort ici. Parce que depuis qu'on est là, on a vu le niveau d'eau baisser. On a vu, même dans les vallées, la nature changer. Si tu vas si près de la nature, tu vois les différences. Les gens qui vivent en ville, ils voient ça au JT le soir. Mais nous, on le vit tous les jours, on le voit. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. La vie de tous les jours dans la nature, c'est pour ça que je m'éclate tous les jours.
Vous êtes autosuffisant, vous produisez votre quasiment. Nourriture.
On mange beaucoup de champignons.
Oui. On se mange beaucoup de champignons.
C'est ça.
Oui, on est presque autosuffisant. Oui, oui, oui. Mm. C'était le but aussi de vivre en autonomie.
De sa terre.
Ouais.
Ouais. Ouais, ouais. Enfin, essayer, ouais. Bien sûr.
Pas à 100%, mais on essaye quand même.
Vous les préparez comment, vous, Charles? Ça vous arrive de faire la cuisine ou...
Oui.
Omelette.
Je les passe en omelette, moi.
Oui.
Ouais. Mais le top, c'est un risotto. Un bon risotto, comme ma femme le fait, parce que moi, je ne suis pas très doué en cuisine, mais Lénore le fait très bien.
Alors, Lénore, comment vous faites votre... Moi, j'aimerais bien avoir votre recette de risotto.
Pas. Non.
Bah, si.
Comme j'ai dit, j'ai fait des champignons à la poêle avec. Pas l'ail, je prends jamais l'ail pour le risotto. Avec l'oignon, voilà. Persil de temps en temps, pour les risottos, pas toujours. Et un peu de vin, s'il y en a reste, parce que moi je bois pas, mais de temps en temps, un petit verre pour Charles.
De verre de cépage d'ici
Si c'est possible.
Du Clinton, de l'Isabelle.
Par exemple. Ouais. Et après. Je peux faire tout ce que je veux en légumes. C'est le moment, si on a un peu de brocoli ou si on a un peu des haricots, je prends tout ça pour le risotto, mais comme tout le monde le fait, le risotto. C'est bien de regarder le moment. S'il y a les brocolis dans le jardin ou les autres légumes, je les prends. Et je fais le risotto comme tout le monde, je pense, pas spécialement.
Et les champignons, ils ont quelle odeur? Ils font quel bruit?
C'est la silence. Si moi je suis dans ma salle de culture, entouré avec 40 blocs remplis de champignons, c'est la silence qui résonne en moi et dans la salle de culture. Et à la fin, je suis bien content que j'ai rempli le frigo avec une vingtaine de kilos de champignons.
Oui, c'est sûr.
C'est aussi banal l'existence parce qu'il faut les vendre, il faut faire vivre la famille,
Tu es fier, encore tu entres dans la cuisine, tu dis oh, j'ai fait encore une fois. J'ai réussi.
Je suis très, très satisfait que j'arrive que je maîtrise la production parce que j'ai tellement galéré pour le maîtriser. Mmh. Et maintenant, je suis trop content que j'arrive à sortir un certain nombre de kilos de champignons. Mmh. Ça, j'en suis très fier, quoi.
Et comment vous voyez la suite, les années à venir?
Mais je vais mourir dans mon vallée, dans mon ravin. Je vais mourir dans mon ravin, c'est un bon fin, ça, non? C'est très poétique. Oui, je crois qu'on a vécu tellement de choses dans cette vallée, il n'y a pas d'issue, on va rester là. Et moi, j'en suis bien content, je suis très heureux là, et je travaille comme une petite abeille.
Léonard?
Bon, c'est pareil, c'est sûr, oui.
Merci beaucoup à vous
deux. Merci à vous, merci.
Fais attention, vous, hein. 3, 4.
We praten niet met volle mond.
Plié, tendu, la jambe et...
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa. La prise de son à Pont de Montvert au Festival de l'Abeille Noire et de François Rivalan, et la mise en onde de Delphine Lemaire. Vous pouvez réécouter cette émission de toute éternité et la podcaster sur le site de France Culture pendant un an. Et dans quelques instants, le journal.